Notre deuxième chiot sur le Perek Nguimel, chapitre 53. Donc le dernier chapitre de la première partie donc, du Tanya, l'Ikuta Mari. Dans ce dernier chapitre,
quelle page, là?
on parle, page 148. Dans ce dernier chapitre, on parle bien sûr donc de la Shrina. C'est ce qu'on a parlé, on n'arrête pas de parler depuis le chapitre 51. On a déjà fait un résumé sur papier. 51, 52. On a expliqué le concept de la Shrina. On a expliqué comment d'un côté, il y avait Akadosh Baruch qui était omniprésent. Et ça, bah, s'il est omniprésent, il n'y a pas de différence. Il n'est pas plus présent dans un endroit que dans l'autre. C'est un aspect. Mais on a expliqué un deuxième aspect. Bonsoir.
Bonsoir.
On a expliqué qu'il y a l'aspect de la Shrina. C'est l'aspect dans lequel, et ça c'est ce qu'on avait expliqué donc, dans ce fameux tableau, je ne sais pas si vous l'avez encore, dans lequel on a expliqué que quand Akadosh Baruch Hu, il s'exprime dans la Shrina, il y a différentes manières comment Akadosh Baruch Hu va s'exprimer. De la même manière que le cerveau est le centre nerveux du corps, mais que le cerveau ne va pas dispatcher la même énergie à tous les membres du corps. Chaque membre va recevoir selon ce qu'il a besoin et selon la caractéristique qu'il a besoin. Par exemple, à l'œil, on va lui donner la capacité de voir, à l'oreille, la capacité d'entendre, aux mains, la capacité de toucher. Tout ça, c'est des capacités qui sont dans l'âme. C'est des capacités qui sont dans l'âme. C'est-à-dire, par exemple, le fait de toucher, ça correspond à une capacité de l'âme de toucher des choses. Spirituellement, ça correspond à des choses. Tous les sens qu'on a, ça correspond à des aspects spirituels qui se trouvent dans la Neshama. D'accord? Donc, la Neshama va dispatcher aux membres différents, pas simplement qu'elle envoie de l'énergie comme de l'électricité, elle dit bon, prenez, chacun il prend, toi tu prends 2 doses, toi tu prends 5 doses, toi tu prends 100 doses. Non, c'est pas comme ça. C'est que chacun reçoit une énergie dédiée. C'est dédié, d'accord? C'est dédié à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le concept de la Shrina. Bon. Alors, de quoi on parle dans le chapitre 53? Dans le chapitre 53, on va essayer d'appliquer ce concept de la Shrina dans la vie de tous les jours. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut me faire, moi, si tu me dis que Dieu est plus présent, moins présent, le cerveau, etc. Bon, c'est bien beau quand tu l'expliques, mais je veux dire, qu'est-ce que ça va me changer dans la vie de tous les jours? On a expliqué que pour répondre à cette question, on va essayer de retracer l'histoire du peuple juif. Et on va la découper en trois périodes. Trois grandes périodes. La première période, c'est depuis le don de la Torah jusqu'à la destruction du premier temple. Deuxième période, c'est depuis la destruction du premier temple jusqu'à la destruction du second temple. Troisième période, c'est à partir de la destruction du second temple jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Mashiach. Donc trois grandes périodes. D'accord, bonsoir. Trois grandes périodes. Trois grandes périodes dans le développement de la Shrina. Le développement de la Shrina, ça veut dire comment Akadosh Baruch Hu se dévoile, comment Akadosh Baruch Hu se développe. La semaine dernière, avant Shavuot, on a expliqué longuement la première période. On a dit qu'est-ce qui se passe dans la première période? La première période, on vient de recevoir les Luchot. On a expliqué un petit peu tous les aspects des Luchot. On a expliqué comment les Luchot, c'était le contenant qui était sacré, qui était particulier, le contenu qui était particulier. On a expliqué comment chaque aspect de l'Ouchot était pas seulement particulier, mais était miraculeux. Et que contrairement aux autres miracles qui ne durent qu'une fraction de seconde, qui durent quelques secondes, quelques minutes, quelques jours, on a expliqué que le miracle des l'Ouchot est un miracle qui est constant. C'est-à-dire que si aujourd'hui on ferait des fouilles et on retrouverait les l'Ouchot, eh bien on retrouverait le même miracle qu'on a expliqué la semaine dernière. Et ça, on a expliqué qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans les l'Ouchot. Ce qu'il y a de particulier dans les l'Ouchot, c'est que Akadosh Baruch Hu se dévoile, la Shrina d'Akadosh Baruch Hu se dévoile au travers des Luchot, sans passer par toutes les étapes par lesquelles elle doit passer pour se dévoiler. Par exemple, le fait que j'ai un verre devant moi. Pour que ce verre existe, il y a forcément une énergie divine. Mais pour arriver à cette énergie divine,
il a dû passer
par plusieurs étapes. Plusieurs étapes, d'accord, etc. Plusieurs étapes, il a dû se restreindre, etc. La particularité qu'il y a dans les Luchot, c'est que Akadosh Baruch Hu est passé directement de Hatzilut à Atiya, on a expliqué à cette manière, sans se restreindre, sans restriction. Et c'est pour ça qu'on a un miracle vivant devant nous qui ne s'arrête jamais. Il ne fait jamais s'arrêter. Pas comme la majorité des miracles qu'on connaît, c'est des miracles qui durent une seconde. Une fraction de seconde. Là, c'est un miracle qui était constant. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, pendant cette première période du Ham Israël, le centre du monde, c'était quoi? Le centre du monde, c'était donc Jérusalem. Dans Jérusalem même, en tout cas pour les Juifs, dans Jérusalem même, c'est le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, le centre, c'est le
Kodesh.
Dans le Kodesh, le centre, c'est le Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, le centre, c'est le Haron. Dans le Haron, le centre, c'est
les Luchot.
D'accord? Et les louchotes, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Qu'est-ce qui est écrit sur les, dans les louchotes? Aseret Adimrot, les 10 commandements. C'est-à-dire que jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, le centre du monde, rappelez-vous, le centre nerveux, ça veut dire que, de la même manière que dans notre corps, il y a toujours un centre nerveux qui lui dirige tout, qui lui dispatche tout. Et c'est lui qui donne les ordres. Même si après, le pied n'est pas forcément au courant qu'il a reçu de la tête. Mais ça ne change pas que c'est la tête qui a donné les ordres. De la même manière, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, le centre du monde pour le Ham Israël, c'était les Aseret Adibrot, les Louchot. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y avait pas plus haut que ça. Rien ne pouvait dépasser la Aseret Adibrot. Donc la Aseret Adibrot, on les avait déjà dans le Mishkan. D'accord ? Donc a priori, sur ce point-là, il n'y avait pas de différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash. La seule différence, c'est que dans le Mishkan, la Kdusha n'a pas pu imprégner l'endroit, alors que dans le Beth Amikdash, la Kdusha a imprégné l'endroit de manière indélébile. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a la Kdusha. Ça, c'est la première grande période qu'on a eue chez le Ham Israël. D'accord ? C'est la première grande période. Après, donc rappelez-vous, c'est quoi le concept de cette période ? C'est une période dans laquelle, pour dévoiler la Torah, on n'avait pas besoin de faire descendre la Torah. En d'autres termes, de passer par toutes ces étapes. Pour passer, je sais qu'il fait chaud, mais on va essayer de se concentrer. Pour passer de Atzilut à Asiya, on n'avait pas besoin de passer par toutes les étapes pour faire descendre la Torah. Et quand on retrace l'histoire, on voit que la manière comment on étudiait la Torah jusqu'à la destruction du premier temple, c'était une manière très particulière. Il n'y avait pas de Gemara. La Gemara n'existait pas. D'accord ? Il y avait tout juste la Mishnah. D'accord ? Et apparemment, toute l'étude du peuple juif se résumait à quoi ? Se résumait grand maximum la Mishnah. Je dis, mais mince, ils comprenaient quoi ? Il y a un problème. Nous, on fait la Mishnah, pour nous, c'est rien. Tu vas me dire, oui, mais c'était très intelligent. Je veux bien être intelligent, mais je veux dire, il y a la Mishnah, il manque des détails. Il n'y a pas de détails, ils sont pas là les détails. Il y a plein de détails qui ne sont pas écrits dans la Mishnah, qu'on développe dans la Gemara. Dans la Gemara, on n'est pas seulement en train d'expliquer les Mishnayot, on rajoute aussi beaucoup de détails qui ne sont pas écrits dans la Mishnah. Alors comment ils ont pu se débrouiller avec la Mishnah ? Et la réponse est là. La réponse est que pourquoi nous on a besoin de la Gemara ? Pourquoi nous on a besoin du Shulchan Aruch ? On a besoin de tout ce qu'on a rajouté ? C'est parce que nous, on prend la Torah comme on va expliquer par la suite, telle que la Torah est descendue. Ça veut dire que la Torah est passée par Atzilut, Bria, Yetira, Asiya, et nous on l'attrape en bas, et donc on essaye de l'adapter à la vie de tous les jours. Mais jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, la Torah, quand on l'étudiait, c'était un petit peu comme les Aseret Adibrot, ça veut dire, c'était Atzilut qui descendait directement dans Asiya. Donc si vous voulez, on étudiait la Torah de manière un petit peu miraculeuse. C'est très spécial comment étudier la Torah. Ce qui s'est passé, lorsque le premier Beth Amikdash était détruit, là, malheureusement, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu a dit, dorénavant, il n'y a plus ce miracle. Et ce miracle ne s'est plus jamais reproduit.
Combien de temps ?
D'accord ? Premier Beth Amikdash, il y a... Premier Beth Amikdash, il y a 2400 ans. D'accord ? Donc, depuis ce moment-là, ce miracle-là, en d'autres termes, je répète, quel miracle ? Le miracle qu'il y a quelque chose de spirituel qui descend dans le matériel sans passer de transition, c'est un miracle qui ne s'est jamais reproduit. Ça veut dire que dorénavant, on a vu comment dorénavant, pour comprendre la Torah, on est obligé de faire descendre la Torah encore plus et encore plus. Mais on a quand même eu le second Beth Amikdash. Dans le second Beth Amikdash, il y avait la Shrina aussi. La preuve, c'est que dans le second Beth Amikdash, est-ce que le Kohen Gadol avait le droit de rentrer quand il voulait au Kodesh HaKodeshim ? Hein ?
Non.
Dans le second Beth Amikdash, non. Pourquoi ? Il n'y avait pas les Louchot.
Il n'y avait pas les Louchot.
Ah, pourquoi il n'a pas rentré ? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial ?
Il y avait la Shrina quand même.
D'accord. Pourquoi il y avait la Shrina ? Quelle Shrina ? D'où elle venait cette Shrina ? Alors c'est ça ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est que là on a eu une deuxième période dans le Ham Israël, une deuxième période dans laquelle on avait une Shrina, mais qui était moins forte, qui n'était rien à voir avec la Aseret Adibrot, c'est rien à voir. Ça c'est on récupérera quand Mashiach reviendra. Mais on avait une Shrina qui était déjà moins forte.
Oui, entre le premier et le deuxième, elle est où ? Ils sont où les Louchot ?
Ils sont cachés.
Mais ça change
quoi ? Ça change qu'elles ne sont pas dans le Kodesh HaKodeshim, elles ne sont pas dans le Saint des Saints.
Ça change quoi ?
Donc, en d'autres termes, avant le Saint des Saints, ça représentait quoi ? Ça représentait les Louchot. Maintenant, il n'y a pas les Louchot.
Oui, mais elles sont là quand même.
Quoi ? Oui, elles sont là, mais elles sont pas. Dans ce cas-là, c'est pas dans le Kodesh HaKodeshim, mais elles ne sont pas dans le Kodesh HaKodeshim.
La Kdusha, elle est là quand même.
Très bien. La Kdusha, du fait qu'elles étaient là un jour.
Non, elles sont toujours là.
Non, elles ne sont pas là. Elles ne sont plus là-bas. Elles n'étaient pas là.
Non, mais elles sont enfouies.
Enfuies.
Pas la même.
Non,
elles sont pas. Bien sûr, mais elles ne sont pas forcément dans le Kodesh HaKodeshim. Elles ont été enfuies, on ne sait pas où. D'accord ? Pourquoi ?
Pourquoi les juifs ne peuvent pas rentrer sur le monde du
temps ? Ah pourquoi justement ? C'est pas seulement ça, pourquoi le Kohen Gadol n'avait pas le droit de rentrer tous les jours ? Pourquoi il ne pouvait rentrer que le jour du Yom Kippour ? même à l'époque du second Beth Amikdash, Ve'azar Akarev Yumat, si un jour il y a quelqu'un qui vient et qui rentre dans le Kodesh Kodashim, on le mettait à mort. À part s'il est fou, quoi. Mais s'il fait de manière préméditée, on le met à mort. Mais pourquoi tu le mets à mort? Il n'y a rien. Il n'y a fini, il n'y a plus les louchot. C'est-à-dire qu'on va expliquer qu'il y a quand même une certaine forme de Shrina qui résidait dans le second Beth Amikdash. Après, on expliquera ce qui s'est passé lorsque le deuxième Beth Amikdash était détruit. Là, apparemment, d'accord? Là, apparemment, on n'a plus du tout ces deux formes de Shrina. Ni la Shrina à max, comme il y avait dans le premier Beth Amikdash, ni la Shrina réduite, comme il y avait dans le second Beth Amikdash. On aura une autre Shrina qui est carrément différente. On l'appellera plus tard la Shrina du Benoni.
C'est là qu'on... Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller sur le monde du temple.
Non, si aujourd'hui on peut pas aller dans le monde du temple, c'est parce que c'est écrit que Kdusha l'Ozazamim Koma, que le fait que l'endroit il a été imprégné de la Kdusha, donc la Kdusha ne bouge pas de l'endroit. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on n'a pas le droit de rentrer là-bas parce que la Kdusha ne bouge pas. Mais ça répond toujours pas à la question.
C'est pas une Shrina, c'est une Kdusha.
C'est une Kdusha. Mais ça répond toujours pas à la question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Tu me dis qu'il n'y a plus les Louchot. Alors, je veux dire, qu'est-ce que ça représente quoi pour nous? Qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui? D'accord? Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dorénavant, c'est ce qu'on va développer maintenant, à partir de la destruction du premier Beth Amikdash, il n'y a plus de raccourcis. C'est ça, en fait, la grande nouveauté. Avant, il y avait des raccourcis. Avant, on pouvait accélérer les choses. Avant, la Aseret HaDibrot, elle venait direct de Hatzilut à Asiya. C'est-à-dire que tu prenais la Aseret HaDibrot, tu étudiais la Torah, c'était du brut. Tu n'avais pas besoin de développement. Direct, c'était du brut. Je peux même pas expliquer ce que c'est, puisqu'on n'est pas passé par là. Dès que le premier Beth Amikdash était détruit, on peut dire que là, vraiment, on est rentré dans une galoute qui n'a jamais bougé. D'accord? On est rentré dans une galoute qui n'a jamais bougé. C'est quoi cette galoute-là? C'est une galoute dans laquelle on nous dit que dorénavant, on a besoin de faire descendre les choses. C'est une galoute dans laquelle, comme expliquent les commentaires, ils disent que c'est malheureusement dans les Tochachot, dans les remontrances, Kadosh Baruch Hu fait. Kadosh Baruch Hu dit, Im telchui mikeri, va alerti afani machem bekeri. Kadosh Baruch Hu dit, si vous allez être tordu avec moi, je serai tordu également avec vous. Ça veut dire quoi? Explique les Mefarchim, ils disent que ça veut dire que des fois, un juif fait une avéra. Kadosh Baruch Hu lui envoie un signal. Il faut que tu fasses tes chouvas. Mais le Yitzhara, il est tellement fort, qu'il va dire non. C'est pas un signal que Kadosh Baruch Hu t'a envoyé, c'est un fait naturel, c'est un fait du hasard, ça n'a rien à voir avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le Yitzhara, après, va être tellement fort, que même quand Kadosh Baruch Hu, il te fait un appel de phare, il dit, reviens, ça y est. Tellement on est dans le monde, et tellement on est descendu, que on voit même plus ça comme un appel de Kadosh Baruch Hu. Ça, à l'époque du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas. Dès qu'il y avait un appel de phare, on le voyait tout de suite, cet appel de phare. Et c'est pour ça que, quand on voit ça dans les Mefarchim, on voit qu'on a reproché au Bnei Israël beaucoup plus la destruction du premier Beth Amikdash que la destruction du second. Beaucoup plus. Pourquoi? Oui, on leur a reproché beaucoup plus. Parce que dans le premier Beth Amikdash, c'était inacceptable le fait que les Bnei Israël n'ont pas ressenti l'appel de phare. C'était inacceptable. Parce qu'ils ressentaient les choses.
C'est pour la même raison d'ailleurs.
Bien sûr. C'est-à-dire que dans le premier Beth Amikdash, ils ressentaient les choses et quand même ils ont fauté. C'est-à-dire, quand on lit dans le Nar, les descriptions de ce qui se passait à l'époque du premier Beth Amikdash, juste avant la destruction, c'est vraiment choquant. On parle d'une période de gens qui connaissaient Akadosh Baruch Hu et qui faisaient exprès de fauter, apparemment. Et c'est pour ça que ça, c'était très difficilement, bien qu'on est encore dans la galoute du deuxième, mais ça, c'était très difficilement pardonnable. On nous a reproché énormément. Bon. Donc, je reprends. Donc, on a le premier Beth Amikdash, l'époque du premier Beth Amikdash, dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné la Aseret HaDibrot, dans laquelle Akadosh Baruch Hu se dévoile directement dans le monde sans passer par aucun intermédiaire, sans passer par transition.
Voilà. Aucun monde.
Rien, aucun monde. C'est du brut. Ça explique beaucoup de choses, ça, quand on voit l'histoire de... À l'époque, on étudie tout juste la Mishnah. Et encore.
C'est le seul miracle vraiment permanent qu'on connaît.
Oui. Ah, mais comme j'ai expliqué, c'est pas seulement un miracle. C'est pas seulement un miracle d'être à Tadibrod. C'est que même la manière comment les juifs faisaient les mitzvot, la manière comment on étudiait la Torah, c'est tout juste si on étudiait la Mishnah. C'est même pas sûr qu'on étudiait la Mishnah à cette époque-là.
On parle des Loukhot.
Oui.
On parlait des Loukhot tout à l'heure. C'était descendu directement.
Oui.
Est-ce que c'est le seul miracle permanent qu'on connaît?
Le seul miracle permanent. Il y a la manne aussi, on a expliqué.
Oui, la manne. Ouais. Oui, mais.
La manne, elle a gardé son caractère miraculeux.
Oui, mais...
La manne que Dieu a demandé de garder.
D'accord, la différence, c'est que la manne, à la différence des Loukhot, c'est que on peut considérer que si elle est donnée la manne, elle peut y avoir un détachement après. Alors que les Loukhot sont en permanence, comme on disait dans...
Oui, 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 ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai qu'on a assez particulier.
C'est particulier.
Est-ce que tout est clair jusqu'ici? Pas de questions?
Non, si Yaakov a compris.
Est-ce que tout est clair?
Tout le monde a compris.
C'est bon?
C'est parce que j'ai dit.
Est-ce que tu as compris?
Donc tout le monde a compris.
Hein? Est-ce que tu as compris?
J'ai compris ce que j'ai compris.
Alors qu'est-ce que tu n'as pas compris?
Je l'aurais compris. J'aurais compris.
Écoutez, on va pas faire compliqué. On va faire aujourd'hui, on va essayer de retracer trois grandes périodes dans l'histoire du Ham Israël. Voilà, pas compliqué. Oubliez tout ce qu'on a étudié avant, tout ce qu'on va étudier après. Aujourd'hui, on parle de ça. Trois grandes périodes dans l'histoire du Ham Israël. Voilà. Première période, on a expliqué, c'est jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. C'était une époque dans laquelle on sentait le divin. C'est-à-dire que le divin, la Shrina, descendait vers le Ham Israël sans passer par aucune transition, sans passer par aucun intermédiaire. Donc,
c'est ton explication, elle est 987
ans avant.
Parce que si on veut diviser en trois parties, il semble que la première partie c'est jusqu'à Abraham.
Attends.
Ensuite,
je parle de trois parties du développement de la Torah.
Tu veux que tu veux réécrire le...
Il me semble que... Non, certainement que tu as raison, hein, oui. C'est pas la question. Mais logiquement, on pourrait penser que la première partie c'est jusqu'à Matan Torah. Et que la partie de Matan Torah, il y a quelque chose de différent.
Moi je suis parti après Matan Torah,
c'est sûr.
J'ai dit trois grandes périodes dans l'histoire du peuple juif. Donc ça veut dire, à partir de Matan Torah, on parle de la Torah. De quoi on parle? On parle de la Shrina, Matan Torah. Bon. Avant Matan Torah, les Bnei Israël ne savaient pas ce que c'était la Shrina. La personne lambda du peuple juif ne savait pas ce que c'était la Shrina. Les patriarches, ils savaient peut-être ce que c'est, mais nous, on ne savait pas ce que c'était.
Je comprends pas, c'est que quand ils expliquaient que le centre du monde, c'était Jérusalem, c'est le temple, et que... Si les Dorotes, elles ne perdent pas leur caractère, on va dire, miraculeux, et qu'elles sont toujours sur la terre,
oui.
Et qu'elles sont toujours en Eretz Israël, elles sont toujours à Jérusalem...
Qui t'a dit qu'elles sont toujours à Jérusalem?
C'est ça qu'on dit.
Je sais pas, c'est pas
On dit pas qu'il est...
On sait pas où elles sont.
Que la Bicouleur, il est parti avec.
On sait pas où elles... Non, elles sont cachées.
Bon, mais si...
Les Chachamim les ont cachées juste avant la destruction. Oui, où ils ont caché?
Ça veut dire caché.
Quoi?
Je veux dire, elles sont toujours là. Donc oui. En quoi la Gdoucha est différente? Elles sont toujours là. Donc ça devrait quand même fonctionner.
Ça veut dire que... C'est une bonne question. Ça veut dire que le fait que la Kadosh Baruch Hu les a cachées et qu'elles ne sont plus accessibles à Israël,
oui.
Ça veut dire que dorénavant, le mode d'action du Ham Israël pour accéder à la Torah a changé. C'est plus du direct, on va devoir passer par des intermédiaires.
Oui, mais...
ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas simplement une question est-ce que les louchot sont là ou elles sont pas là. C'est le mode, c'est la manière d'apprêter la Torah qui a changé. Jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, on apprêtait la Torah directement, sans passer par intermédiaire. À partir de la destruction du Beth Amikdash, quand on retrace l'histoire, on va voir que c'est là qu'on va commencer à étudier la Mishnah. Après, on aura la Gemara. Plus on va avancer, plus on va devoir créer des intermédiaires pour comprendre.
Non, mais ce qui me manque, c'est le maillon, c'est en quoi le fait que les lourdes soient cachées, est-ce que ça modifie le système de fonctionnement? Ça devrait fonctionner de la même manière.
Oui.
Par exemple, une pile atomique, si tu la mets là, ou que tu la mets là ou là, elle fonctionne toujours. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe concrètement, le fait qu'on...
C'est que le fait que Kadosh... Bon, je vais répondre en une minute, mais après, en 10 secondes, après on continue. En deux mots, c'est que le fait qu'Akadosh Baruch Hu a caché les louchot, c'est un résultat d'un changement qui s'est passé en haut.
Ah, voilà.
Alors, je me suis dit, c'est un changement d'optique.
Et voilà.
Ça a changé.
Oui.
D'accord? Ok, donc là, on a fini avec la première période. Maintenant, on passe à la deuxième période. Ubebaïtchini, vous avez troisième ligne, page 148. On va passer à la deuxième période du Ham Israël, qui n'a pas duré longtemps elle aussi, mais bon, finalement, il n'y a pas de grand changement. Ubebaïtchini, chez Loayabo, Aaron, Valuchot. Mara Yoman nous raconte, elle nous dit que dans le deuxième Beth Amikdash, on n'avait plus le Aaron et on n'avait plus les Luchot. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints?
Si tu enlèves. Le candélabre.
Tu enlèves. Non, ah non. Le candélabre, il n'était pas dans le Kodesh HaKodashim.
Ah, dans le Kodesh.
Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints?
Il y avait les.
Qu'est-ce qu'il y avait?
Les anges. Les.
Il n'y avait rien.
Il n'y avait rien.
C'était vide.
Si, il y avait le Aaron.
Rien.
Il n'y avait pas l'Aaron.
Chez Lo Hayabo, Aaron, la Luchot. Dans le deuxième Beth Amikdash, on n'avait ni le Aaron, ni le Luchot.
Pourquoi c'est marqué dans le Mac lorsque l'empereur romain est rentré?
Alors attends. Amour Khazal. Sur ça, les Chachamim m'ont dit. Chez Loaïta, on a refait une réplique, juste pour le Kohen, mais il n'y avait rien, ça veut dire qu'il n'y avait plus le Aaron qu'on a construit. Tout ça, c'était caché. Amou Razal, Rahamim m'ont dit, chez Loaïta Shrina Shorabo. Qu'est-ce que dit la Gemara dans le traité Yoma? Elle dit que dans le deuxième Amikdash, la Shrina ne résidait plus. Et pourtant, ce qu'on a dit, pourtant on a dit qu'on n'a pas le droit, le Kodesh Kodashim, c'était toujours l'endroit le plus sacré. Alors ça veut dire quoi que la Shrina ne résidait plus? C'est peut-être qu'on avait expliqué la Gemara Zaka une manière de nous dire que c'était plus la même Shrina qu'il y avait avant. c'était plus la même shrina, c'était plus du direct, c'était plus du concret comme on avait avant. On va devoir passer par certains intermédiaires, parce qu'on va amener d'autres gmarot dans lesquels c'est écrit qu'il y avait la shrina. Et pourtant la gmara yoma, elle nous dit qu'il n'y avait pas la shrina. Alors c'est quoi la réponse? La réponse est que, dans le deuxième intermédiaire, il n'y avait plus la même shrina qu'il y avait avant, c'était autre chose. À tel point qu'on comprend, on dit bon, il n'y a plus la shrina, ça y est, c'est autre chose. Pirouche, ça veut dire, il explique. Madregat shrina, Shaita Shorab Baidrishon. Quand on dit qu'il n'y avait plus la Shrina, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la Shrina, qu'il n'y a plus rien. Parce qu'aujourd'hui encore on a la Shrina, même aujourd'hui qu'on n'a plus le Batamikdash, on va expliquer tout à l'heure qu'il y a des manières comment nous aujourd'hui on peut retrouver la Shrina. Alors ça veut dire quoi quand tu dis qu'il n'y avait plus la Shrina dans le deuxième Batamikdash? Ça veut dire qu'il n'y avait plus la même Shrina qu'il y avait Shaita Shorab Baidrishon, qu'il n'y avait plus la même Shrina qui résidait dans le premier Batamikdash. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette Shrina? Chez l'Okederek Ishtal Shelut Olamot, puisque c'est Akadosh Baruch Hu résidait dans le Ham Israël, sans passer par l'enchaînement des mondes, ça veut dire sans passer par intermédiaire. Et ça, c'était ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se dévoilait au Bnei Israël, un juif pouvait étudier la Torah, sans passer par des intermédiaires. C'était du brut. Et il comprenait. Il saisissait la Torah. Et la Bebaïcheni, dès qu'on arrivait au deuxième Betamigdash, Aïta Shora, Kederech Ishtal Shelut, Veitlapshut, Malchut de Atilut, Be Malchut de Bria. Ah, dès qu'on arrivait au deuxième Betamigdash, là à ce moment-là, donc comme on l'avait expliqué il y a deux semaines, d'accord? Donc là à ce moment-là, c'est Malchut de Atilut, le dernier niveau de Atilut qui va descendre dans le niveau de Bria, ou de Bria, Be Malchut de Yetira, et c'est Bria après qui va à la Yetira, donc c'est les quatre mondes. Ou de Yetira, Be Echal Kodesh Kodashim de Asiya. Et après, de Yetira, on va arriver au quatrième monde. C'est-à-dire que là, il y avait déjà eu tout un boulot d'adaptation avant que ça arrive en bas. Le Kodesh Kodashim de Asiya, Ayamit Labesh, le Kodesh Kodashim, chez Bebet Amikdash Lemata. La seule différence qu'il y avait, que je vais essayer de, voilà, on avait expliqué, vous avez le tableau, vous rappelez ce qu'on avait, j'ai plus le tableau parce que je donnais, ah, voilà, j'ai encore. Pourquoi j'en avais plus, voilà. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? Vous rappelez ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué qu'il y a Atilut, Bria, Yetira, Asiya. Et on a expliqué que dans chacun de ces quatre mondes, il y a une structure commune qui est Chochma, Binadat, Lemidot, etc. Vous vous rappelez? On a expliqué que la manière comment c'est conçu, c'est que le dernier niveau de Atzilut devient le premier niveau de Bria, etc. Alors, la seule chose qu'on avait dans le deuxième Beth Amikdash, c'est que dans le deuxième Beth Amikdash, le cerveau du deuxième Beth Amikdash, c'était quoi? On avait accès au premier niveau de Asiya. Ça veut dire que Asiya, c'est le monde d'ici-bas, le monde Gashmi, le monde matériel. Et la chance qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée dans le deuxième Beth Amikdash, c'est qu'on avait accès, dans le quatrième des mondes, on a 10 niveaux. Hein, ce qu'on avait expliqué, il y a une structure commune de 10 niveaux. Alors Akadosh Baruch Hu dit, bon, je vous donne le premier niveau du quatrième monde. Jusqu'à présent, c'était le premier niveau du premier monde. Chut, et ça descendait direct. Là, Akadosh Baruch Hu dit, bon, on va devoir descendre, mais je vous donne quand même quelque chose. Je vous donne le cerveau de Asiya. Je vous donne le premier niveau de Asiya. Le premier niveau du quatrième monde. Nous, aujourd'hui, on a même plus ça. Nous, aujourd'hui, on a le dixième du dixième. Le dixième du quatrième.
Du quatrième.
D'accord?
Et c'est quoi le dixième du quatrième?
On va expliquer. D'accord, on va expliquer après. Mais là, on te dit, ce qu'il y avait à l'époque du dixième Beth Amikdash, ça veut dire qu'on était déjà dans la SIA. C'était déjà une certaine représentation matérielle, physique. C'était autre chose. On avait besoin d'adaptation. Le peuple juif avait besoin de plus d'études. Plus d'explications. Et on le voit. C'est là qu'on voit que les Bnei Israël ont développé l'étude de la Mishnah. C'est là qu'on a commencé à structurer la Mishnah, l'étude avec des halachot, etc. Avant, il n'y avait pas la Halakha.
Mais c'est parce que,
historiquement,
c'est parce que les Juifs ont été amenés, après la destruction du temple, ont été amenés en Babylonie, et là-bas, ils savaient que ça allait être perdu s'ils mettaient...
Mais pourquoi en Babylonie, on n'a pas retransmis les choses de la même manière qu'on les transmettait avant? Il y a un changement d'optique.
En Israël, autour de Jérusalem, ils savaient que tout était là, le temple était là, tout était là.
La Gemara dit, elle raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord, ne voulait pas écrire la Mishnah. Et parce que c'est interdit. Pourquoi on l'appelle Torah chez Baalpé, la Torah orale? Parce que la Torah orale, Dvarim chez Baalpé, Iatarasha, Ilomran Birtav. Que les choses qui sont transmises à l'oral, on n'avait pas le droit de les écrire, c'était assourd. C'est une interdiction formelle. Et Rabbi Yehuda Hanassi, la Gemara a dit, Gemara Shabbat, elle dit que Rabbi Yehuda Hanassi a dit « Et la soit la Shem et Ferut Torah Techa ». On n'a plus le choix, la méthode a changé, et maintenant pour Dieu, on est obligé de modifier la Torah. Donc on est obligé d'écrire aujourd'hui, parce que sinon ça va se faire. La méthode qui a changé, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que avant, on pouvait accéder à Kadosh Baruch Hu, on pouvait accéder à la Halakha de manière directe, et après, à la deuxième période, donc l'époque de la Mishnah, quand la Shrina est partie, pardon, on a été obligé d'adapter le message puisqu'on n'était plus au premier niveau du premier monde. On avait la Shrina, d'accord, on pouvait l'attraper seulement au premier niveau du quatrième monde. Donc on était obligé de passer par un certain message.
Pour cette raison que...
Encore une fois, ce que j'ai dit à Jacob tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe dans le monde ici-bas, c'est un résultat de ce qui se passe en haut.
L'exil, c'est le résultat.
On est d'accord ? Ce qui se passe ici-bas, c'est un résultat d'une modification dans le système en haut. C'est-à-dire, si en bas, on est devenu plus bête et qu'on n'arrive pas à comprendre, alors pourtant, on n'est pas plus bête ou moins bête. C'est parce qu'en haut, il y a une modification du système. Maintenant, pour comprendre, il faut comprendre dans le matériel. Avant, ils n'avaient pas besoin. Avant, c'était direct. Ils sentaient la chose. Santé, il n'y a pas besoin d'expliquer.
On voit bien dans l'histoire des prophètes, d'Abraham, Isaac, Jacob, il n'y avait pas tout ça.
Ouais. Chez Chassidim, on donne un exemple. On a un exemple suivant. On dit c'est comme quand il y a un chassid qui va voir son rabbi. Que lorsqu'il est devant son rabbi, on n'a pas besoin de lui expliquer que la Torah c'est bien. Il est devant son rabbi, il est ébloui, il est à fond dedans, on n'a pas besoin de lui expliquer. Après, lorsqu'il va rentrer chez lui, lorsqu'il va descendre, qu'il va s'éloigner de la shrina, entre guillemets, c'est là qu'il va avoir besoin de se remémorer, d'essayer de comprendre et les détails. Mais quand il était devant son rabbi, il n'avait pas besoin de penser à tout ça. Il n'avait pas besoin de descendre parce qu'il avait accès directement au brut. Et il n'avait pas besoin de tout ça pour être chemin Torah au mitzvot. C'est exactement la différence entre le premier Beit HaMikdash et le deuxième Beit HaMikdash. Premier Beit HaMikdash, c'était du brut. C'était devant son rabbi, devant un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Après, quand le premier Beit HaMikdash était détruit, on a perdu ce niveau-là. On s'est éloigné. Tu t'es éloigné, maintenant on a l'obligation d'étudier et d'essayer de comprendre.
C'est ce qu'on ressent, par exemple, le jour de Kippour, où on sent qu'on a quelque chose de particulier, et on a envie que ça reste toute l'année, mais heureusement, dès le lendemain...
Il y en a fait...
Comme ça attrapé un rhume.
Peut-être les pollens.
Peut-être quoi, le pollen?
En ce moment...
Il
y a des pollens.
Donc on va avancer, on va voir.
Hein? Quand le pollen, vous êtes.
Ah. C'est allergique, non? Moi, j'ai un petit peu de pollen.
Il y a des tonnes, là, c'est.
J'espère que la semaine prochaine, on aura la clim, si Dieu veut. Cette semaine, il y a rien qui doit passer.
Ça va baisser, 18 degrés dans le.
Ah, d'accord. Alors. Donc, il continue là de Morazakel. Dit. Pérouche, où on s'est arrêté? Vekodesh Kodesh Vechartabwa Shrina Malchud et Yitiram Lubesha Bekodesh Kodeshin de Asiya. Velachen. Je prends un Velachen. Velachen. Je suis un peu avant le milieu de la page, juste après le point. Velachen, c'est pour ça. Lo haya rachai shumadam likanesham. C'est pour ça que toujours personne n'avait le droit de rentrer dans l'endroit du Kodesh HaKodashim. Ah, tu vas me dire, la Gemara dit, il n'y a plus la Shrina. Mais si, il y a la Shrina. Sauf que c'est plus la même Shrina qu'avant. Ça veut dire qu'en vérité, l'endroit, il reste toujours aussi Kadosh qu'avant. L'endroit du Kodesh HaKodashim, la Kdusha n'a pas changé. La Gemara dit Kdusha Lozazamim Koma. C'est-à-dire que l'endroit du Kodesh HaKodashim, lui, n'a pas changé. Qui a changé? C'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons changé, c'est notre manière de percevoir les choses. Avant, on pouvait se souffrir de ça pour servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le fait que les louchot ont été cachés, ça exprime donc une modification dans le système qui fait que maintenant, on ne peut plus servir à Kadosh Baruch comme ça, il y a une modification dans le système. Maintenant, la Shrina est toujours là, c'est la même chose. Mais nous, pour percevoir la Shrina, on est obligé d'essayer de comprendre et de comprendre.
Donc
Mishéchara Beit HaMikdash. Maintenant, après, le Beit HaMikdash était détruit. Donc deuxième période du Am Israël, c'est quoi? On a expliqué, c'est lorsqu'on a eu une Shrina réduite. On a eu le premier niveau du quatrième monde. Après, le Beit HaMikdash était détruit. Là, le Beit HaMikdash était détruit, ça veut dire que là, Kadosh Baruch Hu nous a dit, maintenant, une deuxième modification dans le système, maintenant, on n'a plus accès du tout à la Shrina. Alors, comment on fait pour voir la Shrina aujourd'hui, si on veut voir la Shrina? La seule Shrina qu'on peut avoir, c'est une Shrina qui est tout en bas. C'est quoi? C'est une Shrina qui est dans Asiya de Asiya, c'est-à-dire le dernier monde, c'est dans l'action. Ou Mishéchara Beit HaMikdash, c'est là qu'on va comprendre un peu où il va en arriver là de Morazakel. Depuis que le Beit HaMikdash était détruit, nous dit la Gemara Brachot, au début, premier chapitre, En lo leakadosh baruch hu beolamo, et la dalet amot shel halacha bilvad. Depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, Akadosh baruch hu n'a dans son monde, ça veut dire en d'autres termes, la Shrina ne peut s'exprimer, seulement dans dalet amot shel halacha, ça veut dire seulement dans 4 coudées de halacha. Alors d'abord, c'est quoi 4 coudées? Et pourquoi la halacha? Hein? C'est Agmara a dit, Agmara d'Afret, là-bas dans Brachot, a dit, elle ne l'a qu'à d'âge barou boalamo, et la dalette tamat chez l'alacha. C'est, je crois, 4 coudées de l'alacha. C'est quoi les 4 coudées? C'est une notion que vous connaissez, 4 coudées. 4 coudées, exactement, c'est la limite personnelle. C'est la limite d'une personne. C'est-à-dire, on considère que, il y a beaucoup de halachot dans lesquels on dit que, périmètre de 2 mètres autour de moi, ouais. Bah, si, par exemple, il y avait un objet dans 2 mètres autour de moi, et que je dis, il est à moi, le fait qu'il était dans les 2 mètres autour de moi,
c'est pas 2 mètres.
D'accord?
C'est que moi, je suis au centre, de mon centre.
Voilà, donc ça fait 2 mètres. D'accord?
C'est pas 2 mètres autour de moi, ça fait moins.
Non, 2 mètres, tu comptes 2 mètres?
Non, il faut croire que c'est 1 mètre devant, 1 mètre derrière.
Non, 2 mètres partout.
Ah, c'est 2 mètres partout.
Bien sûr,
c'est 2 mètres partout.
Donc, Arba Amot, d'accord? Arba Amot et 4 Amot, ça fait 2 mètres. Ça veut dire quoi? Donc, Arba Amot, 4 Amot et de Halacha. C'est quoi la différence entre la Halacha et le reste de la Torah? C'est que dans la Halacha, on voit comment on va expliquer maintenant, la Halacha s'exprime principalement dans l'action. Dans les autres parties de la Torah, on ne parle pas forcément d'action. On peut parler des choses qui vont pas forcément se matérialiser dans l'action. Ce qu'on a de particulier dans la halakha, c'est que dans la halakha, on parle forcément d'action. Et qu'on te dit la halakha telle que tu dois la faire. C'est-à-dire que même s'il y a 10 avis, on va pas t'amener les 10, on va t'amener l'avis que tu dois faire. C'est tout. C'est quoi Arba Amot shel halakha? Ça veut dire que depuis que le Beit HaMikdash était détruit, la seule manière comment on peut retrouver Akadosh Baruch Hu, c'est uniquement dans les 4 Amot de la halakha, ça veut dire dans ma mitzvah que je vais faire, seulement dans mon périmètre personnel. On n'a plus comme avant qu'il y avait les louchot pour tout le monde. Même louchot pour tout le monde. Depuis que le Beit HaMikdash était détruit, il y a un boulot personnel qui doit être fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Encore une fois, ça explique beaucoup de choses, ça aussi. Ça explique comment, avant la destruction du Beit HaMikdash, on voit pas dans l'histoire qu'on avait, que tout le Ham Israël était forcément, on les encourageait à connaître la Torah. Bien sûr, on leur demandait d'étudier un petit peu le matin, un petit peu le soir, mais on les encourageait pas à devenir forcément savants. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on les encourageait pas à avoir un travail personnel. À se travailler chacun personnellement. Se construire. Il n'y avait pas. Il y avait un petit peu, mais il n'y a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Depuis la destruction de Beit HaMikdash, on retrouve ce concept-là. Que progressivement, dans la Gemara, on commence à nous parler de se construire. Et plus on a avancé dans l'exil, et plus on a eu des livres qui ont été écrits, on a vu que, vous savez, quand on cherche des livres de pensée juive, pour nous apprendre comment se construire, quand on voit dans la Gemara, très peu. Très très peu. La Gemara, c'est les petites allusions parties par là, mais c'est, je veux dire, on peut pas, il n'y a pas un texte qui t'explique comment construire ta Neshama. Il n'y a pas. Celui qui veut étudier la Gemara et qui croit que va étudier Tania, il n'y a pas. C'est seulement 1000 ans après que la Gemara a été écrite, qu'on a eu des sages comme Rabbeinu Yonah, d'accord, etc., qui ont commencé à construire des livres qu'on appelait à l'époque des livres de Moussar. C'est-à-dire des livres de construction personnelle. Avant, rien de tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Encore une fois, c'est une modification dans le système en haut. C'est que, depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, progressivement, Akadosh Baruch Hu nous montre que dorénavant, Akadosh Baruch Hu n'a que Arba Amot shel Halacha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu, comment la Shrina peut s'exprimer? La Shrina va s'exprimer personnellement. Ça va être un travail personnel que chacun va faire. C'est un travail qui va le concerner, qui va être personnel, et qui va être principalement dans la Halacha. Il va expliquer à Admor HaZaken c'est quoi la Halacha. C'est-à-dire, c'est un travail qu'Akadosh Baruch Hu voudra qu'il se matérialise principalement dans l'action. Pour l'Admor HaZaken va expliquer maintenant.
Des fois, j'ai pas compris ce que tu as dit il y a 2 minutes.
Oui.
En quoi le fait que maintenant la doucha s'exprime par l'enchaînement des mondes et que elle est toujours là, mais elle s'exprime de manière différente, elle vient pas directement de la
Tchoum? C'est pas qu'elle s'exprime, c'est que nous on la perçoit plus de la même manière.
Oui.
Nous, avant on avait des bonnes lunettes, maintenant on n'en a plus.
En quoi ça entraîne le fait que le grand prêtre peut y pénétrer que le jour du Yom Kippour?
Ce qu'on a expliqué.
Oui.
C'est que le Kohen Gadol peut rentrer que le jour du Yom Kippour, parce qu'en vérité la doucha est toujours là-bas.
Oui.
D'accord.
Donc c'est-à-dire
ce que l'Admor HaZaken veut expliquer, c'est qu'en réalité, les différents niveaux de Shrina, c'est pas différents niveaux de présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est toujours présent de la même manière.
Présent, oui.
C'est nous qui avons changé. Que nous, avant, on avait des bonnes lunettes, directement personnelles.
Il nous a modifié.
Après, il nous a modifié. Il y a eu une modification dans le système.
D'accord.
Donc on voit moins bien. D'accord. Et après, maintenant, on voit encore moins bien. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, on peut percevoir Akadosh Baruch Hu uniquement au travers, d'accord, de l'action, comme ce que l'Admor HaZaken va expliquer. Et pas seulement ça, c'est un travail personnel.
D'accord, mais qu'est-ce qui fait le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a une permission spéciale
pour
dans le système, uniquement pour le Kohen Gadol.
C'est que l'endroit, et que l'endroit qui était Kadosh, mais les Lourdes ne sont pas là.
Tu avais dit que c'était parce qu'on était au dernier niveau des Yitzhira.
Oui, mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que les Lourdes ne sont pas là. Les Lourdes ne sont pas là, donc...
D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le système là-haut, il est prévu qu'un jour par an, le Kohen Gadol, lui, pour rentrer,
la Gemara raconte que dans le premier Beit HaMikdash, lorsque le Kohen Gadol est rentré dans le Beit HaMikdash, le jour de Yom Kippour, il ressentait une Kdusha extraordinaire dans Kodesh HaKodashim. D'accord ? Mais à partir du deuxième Beth Amikdash, le Kohen ne ressentait plus ça. C'est-à-dire, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que on n'avait toujours pas le droit de rentrer. Aujourd'hui, on n'a toujours pas le droit de rentrer, parce que l'endroit est Kadosh, mais nous, les humains, on ne perçoit plus ça. C'est fini.
Alors, je reprends la question, si on ne perçoit plus ça, en quoi le fait, pourquoi il pouvait rentrer que ce jour-là ?
Bon, parce, encore une fois, parce que l'endroit, il reste Kadosh, et Kadosh Baruch Hu ne permet dans un endroit Kadosh comme ça que le jour le plus saint de l'année. Voilà. Alors, donc, Va'afilu Echad, Shiyoshev Vosek Batora, Shrina Imo. Comment on peut retrouver la Shrina aujourd'hui ? Et là, vous allez voir comment on baisera ta chaîne dans les semaines suivantes. On fera un résumé dans lequel on retracera tout le Tania. D'accord ? Tous les 53 chapitres. D'accord ? Mais ce qu'on va expliquer ici, c'est, qu'est-ce qu'explique la Gemara Zaken ? Il dit que même, qu'est-ce que dit la Gemara Brachot là-bas, Davav ? Elle dit que, Afilu Echad Sheyoshev Vosek Batora Shrina Imo. Il dit que même si une personne est en train d'étudier la Torah, là-bas, la Gemara dit, d'où on sait que s'il y a 10 personnes qui étudient la Torah est avec eux, la Shrina est avec eux. D'accord, chez Neymar, et le Kimitsa va datkel. Bon, etc. Après, la Gemara dit, d'où tu sais que même 3, d'accord, et d'où tu sais que même 2, et d'où tu sais que même 1, d'accord. Et là-bas, la Gemara amène une preuve qu'une personne qui est en train d'étudier la Torah, même une personne qui est en train d'étudier la Torah, la Shrina est là. Pourtant, tu viens de me dire que depuis que le premier Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus la Shrina. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Shrina imo, quand on dit que quand on est en train d'étudier la Torah, la Shrina est avec moi, ça veut dire que c'est plus comme avant que c'était une Shrina qui ne passait pas par aucun intermédiaire et qui était irradiée au monde entier. Là, c'est une Shrina personnelle, c'est un travail personnel. C'est-à-dire que depuis la destruction du Beth Amikdash, on donne beaucoup plus d'importance au travail personnel. Et je vous dis, c'est, à mon avis, c'est ce qui explique la raison pour laquelle on n'a pas de trace de livres de pensée juive et de construction personnelle de moins de 1000 ans. Il n'y a pas. Peut-être 1000 ans, 1100, il n'y a pas. Il y a Sefer Haredim, il y a Rabbeinu Yonah, etc. Mais ça remonte à 1000 ans. Qu'est-ce qu'ils étudiaient avant ? Comment ils se construisaient ? Il y a un problème. D'accord ? Il n'y a pas de livre. Quelqu'un voulait se construire, il n'est pas, il n'y avait pas de cours de Tania. Il n'y avait pas de cours de Rabbeinu Yonah, il n'y avait pas de cours de Messie Laïcha. Il n'y a pas, ça n'existe pas. D'accord ? Les Pirkei Avot. Nous, aujourd'hui, on explique Pirkei Avot comme ça. Les Pirkei Avot, tu peux le comprendre le Pshat dans le sens simple. On n'avait jamais vu de Mefarshim qui ont expliqué une construction personnelle. Bien sûr, comme je te le dis, c'est que déjà à l'époque de la Gemara, on voit déjà un début de construction personnelle. Mais c'est rien à voir avec ce qui a été développé après. Rien à voir.
Il n'y avait pas besoin. Yosef Hatzadik.
Oui.
On voit qu'il se travaille.
Oui. Mais il n'y a pas de méthode de construction personnelle dans la Torah. Il n'y a pas de livres qui ont été composés.
Il n'y a pas.
Même Pirkei Avot. D'accord, bon, c'est des bonnes manières, etc. Mais il n'y a pas de livre de construction personnelle comme ce qu'on a aujourd'hui. Ça n'existe pas.
J'ai entendu que s'il y en avait, il en faudrait une par personne, un livre par personne.
Oui.
Donc il n'y a pas de, autant on peut faire un livre de halakha, mais autant pour construire l'individu, il faudrait un livre par individu.
C'est ce qu'on avait expliqué dans ce que l'Admor HaZaken avait expliqué dans l'introduction du Tania. Il a dit que normalement il n'aurait pas dû écrire de livre. Pourquoi ? Parce qu'il dit, je sais très bien que j'ai l'habitude d'accueillir les gens et je sais que quand on écrit les choses, une personne il peut comprendre comme ça, une autre personne il peut comprendre comme ça. Et il aurait fallu écrire un livre pour chacun. Quand il explique là-bas longuement que quand même il a décidé d'écrire, il explique que quand on se base sur le limoud de Torah, alors les mots de Torah sont accessibles à tout le monde. D'abord, il explique longuement ce concept-là. C'est-à-dire que si on écrivait un livre de science, là effectivement, deux personnes ne vont pas le comprendre de la même manière. Mais comme on écrit un livre de Torah et que la Torah a été faite pour tout le monde, alors c'est pour ça l'Admor HaZaken dit. L'Admor HaZaken dit que je pense que comme on se base sur les divrei Torah, tout le monde va les comprendre. Maintenant, l'Admor HaZaken, là-bas, dans l'introduction du Tania, il disait qu'il y a un deuxième problème. C'est que des fois, la personne marche dans l'obscurité, et lorsqu'une personne marche dans l'obscurité, même les divrei Torah, il n'arrive pas à étudier. Et ça, l'Admor HaZaken dit, j'ai l'habitude d'accueillir du monde. Je sais qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que peut-être le texte n'est pas adapté à tout le monde. Il dit, bon, on va dire que comme c'est des mots de Torah, ils sont adaptés pour tout le monde. Ok. Mais des fois, la personne marche dans l'obscurité, il n'arrive pas à voir. Alors, sur ça, l'Admor HaZaken, il s'adresse aux rabbanim de chaque ville, et leur dit d'aider les gens qui ont du mal à comprendre, qui ont du mal à avancer. Parce que ça, on est obligé, il y a besoin d'aide. Encore une fois, des livres de construction personnelle comme ça, il n'y en a pas avant. Maintenant, on comprend. Parce que, depuis la destruction du Beth Amikdash, étant donné que la Shrina ne peut s'exprimer que tout en bas, et tout en bas, le dernier niveau, donc elle s'exprime dans la construction personnelle. Il faut se fatiguer. Et on est obligé d'essayer de gratter pour avoir juste quelque chose de tout petit, parce que c'est comme ça. Il y a un but, il y a une modification dans le système, on va expliquer pourquoi.
Mais en même temps, c'est bien. En même temps, ça veut dire que c'est plus
c'est bien. Tu sais, quand je reprends mon exemple tout à l'heure, un chassid qui est devant chez le rabbi, s'il avait cet enthousiasme toute l'année, fais-moi confiance, il aurait fait les 613 mitzvot sans broncher.
D'accord, mais regarde, ça fait penser à ce qui s'est passé dans le désert. Dans 40 ans, ils étaient nourris, logés, blanchis, et Hachem, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient qu'ils travaillent. Les explorateurs, ils voulaient rester dans le désert.
C'est évident. Jacob, ce qu'il veut expliquer, c'est que c'est évident que l'état dans lequel on arrive aujourd'hui, c'est voulu par Kadosh Baruch Hu.
Voilà.
C'est évident. C'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, dans son système, a prévu. C'est évident, ça. Quand on lit dans les textes. Que Akadosh Baruch Hu a prévu qu'il y aura un certain moment dans lequel les Bnei Israël devront travailler leur personne, personnellement. C'est évident que c'est prévu. Et ça, c'est bon. Un jour, on étudiera dans Igaret HaKodesh après du Admor HaZaken. C'est très impressionnant comment il explique. Là-bas, le fait qu'il y ait des Midrashim qui nous expliquent que Akadosh Baruch Hu a prévu la faute d'Adam Arishon dans son système. Parce que, si Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous qu'Adam Arishon n'avait pas fauté. Qu'est-ce qui serait passé? Toute la Torah, tu peux l'ajouter à la... Ça sert à rien. Il n'y a plus le système de bien et de mal. Il n'y a plus le système de mort, de vie. Tout ça, tu peux tout jeter à la poubelle. Alors comment il aurait fait la Torah? Toute la Torah est basée sur ça. Toute la Torah est basée sur le fait qu'il y a du bien et du mal, il faut choisir. Or, tu me dis, Adam Arishon, il a mangé le fruit défendu. Et dorénavant, ça y est, il est comme Akadosh Baruch Hu, il est capable de goûter au bien et au mal. Mais ça veut dire quoi? Mais toute la Torah, t'aurais pu la jeter. Comment on dit que la Torah, c'est le plan du monde? On expliquera que c'est clair que quelque part, ça a été prévu par Akadosh Baruch Hu, tout ça. Bon, alors pourquoi on est responsable de ça? Ça, c'est une autre question. Bezrat Hashem, on y arrivera. Donc, je reviens à mon sujet. D'accord? On revient au sujet de Tania. On a eu deux modifications du système. Première modification pour atténuer la lumière de la Shrina. Deuxième modification pour atténuer encore plus. Et là, la seule manière d'accéder à la Shrina, c'est un travail personnel.
D'accord? Puisqu'une seule personne, elle peut avoir la Shrina. Donc...
Oui. Alors, elle nous fait remarquer, il nous dit pourquoi la halakha? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la halakha? Hein? Il dit que derech ishtalchelut veitlapshut malchut d'atzilut malchut d'evira veyetira vasya. Ki tariag mitzvot à Torah. Car si on analyse bien, les 613 mitzvot de la Torah. D'accord? D'où on sait qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah? Bon, ça c'est écrit dans la Gemara Menachot. Encore une fois, il faut savoir ça aussi. Impressionnant. Quand on lit, à partir de quand on voit des gens qui ont compté 613 mitzvot dans la Torah, et 1200 ans maximum, avant 1200 ans, il n'y a pas de trace qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il y a un remède, une allusion dans la Gemara Menachot. Mais il n'y a jamais eu une personne qui a compté 613 mitzvot. Ça n'existe pas. Comment ça se fait? Pourquoi? Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont venues, beaucoup de choses très importantes pour nous. Prenez les textes de Maïmonide, prenez des textes très très importants, qui sont venus uniquement en exil, seulement dans la galoute. Pourquoi? Comment ça se fait?
Comment ça se fait qu'un 613 alors? Parce qu'il y a des archloquettes pour savoir qui...
Très bien. Mais ça veut dire que le décompte de 613, ça n'a jamais préoccupé les Chachamim de l'époque. Jamais. C'est seulement après qu'on a eu une marloka entre le Rassag, Maïmonide, etc. Mais ça date pas d'il y a longtemps. C'est bien après la destruction de Beth Amikdash. Encore une fois, on va expliquer l'Admor HaZaken. Expliquer parce que là, hein, à partir de la destruction de Beth Amikdash, on rentre dans une étape, modification du système, dans laquelle Akadosh Baruch Hu dit maintenant, on donne de la place aux mitzvot dans la construction personnelle. Pourquoi? Les 613 mitzvot de la Torah, écoutez bien ce qu'il va dire, sont principalement liés à l'action. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous connaissez des mitzvot qui ne sont pas liés à l'action? Quelqu'un veut chercher de l'eau frigidaire? Il n'y a aucune mitzvot qui est à
l'action.
Au fond, non quoi?
Elle est interdite, non? Tu ne feras pas.
Oui, tu ne feras pas, mais c'est lié à l'action aussi.
Je ne crois pas. On ne peut pas dire. Il n'y a pas d'alerte. Ah,
oui, alors vas-y.
On
ne
pas comme ça.
On va. Alors réfléchissons.
Si on ne vole pas, on ne fait pas d'action.
Il n'y a pas de mitzvot?
Si on ne vole pas, on ne fait pas d'action.
Oui, mais comme c'est lié à l'action.
Par rapport à la pensée, tu veux dire. Par exemple, tu n'auras pas de mauvaise pensée.
Est-ce qu'il y a des mitzvot? Est-ce que toutes les mitzvot sont liées à l'action? C'est lié à l'action, c'est lié à la matériel. Est-ce que toutes les mitzvot sont liées à l'action?
Je pense, oui, bien sûr.
C'est sûr?
J'en sais rien.
L'étude, c'est lié à l'action?
C'est l'action, bien sûr.
Non.
C'est pas l'action, l'étude?
C'est l'action de connaître.
C'est une action, mais c'est lié au cerveau, c'est pas lié à l'action.
Non,
attends. La prière. C'est pas une action?
Ah, d'accord.
C'est une action, la prière?
C'est pas une action. Je suis pas actif, je prie.
Non, j'ai pas parlé d'activité. J'ai parlé d'action.
C'est pas une action.
La méditation. La méditation.
Fait. C'est
la transaction.
Oui, très bien, mais ce qu'il va expliquer ici. Il va expliquer ici que normalement, quand on analyse bien, la majorité des mitzvot sont liés à l'action. Il va expliquer qu'il y a quand même des mitzvot qui ne sont pas liées à l'action, et même dans ces mitzvot-là, il va expliquer comment en vérité elles sont quand même. Non, c'est pas ça, elles sont elles-mêmes de l'action. Regardez bien ce qu'il va expliquer. Alors, Kitariak mitzvot haTorah, car. Il n'y a plus d'eau, c'est tout ce qu'il y a ? Il y a peut-être. Hein ?
Il y a une bouteille dans le placard, mais elle est
pas fraîche. Ah, d'accord. Bon, si vous avez soif.
Vous avez soif, de prendre.
Rentrez chez vous.
On va faire comme Shabbat, il n'y a pas de verre.
Là,
il y a des verres. Alors, Kitariak mitzvot à Torah. Donc là, rappelez-vous, on est dans la troisième étape, l'étape de la construction personnelle. Et vous allez voir que c'est ça ce qui va nous aider à comprendre le Tanya. Il va nous aider à comprendre la construction du Tanya, le Benoni et tout ça, etc. Parce que là, on est en plein dedans. C'est la Shrina, c'est la troisième étape, la construction personnelle. C'est comme ça qu'on attrape la Shrina aujourd'hui. Comme ça, et c'est la seule manière d'attraper la Shrina.
Donc quand il y a la Hakha, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre
par rapport à la Hakha ? Alors, va expliquer. Kitar yag mitzvot à Torah, car les 613 mitzvot de la Torah, Rovan kekulam, em mitzvot marasiyot. La majorité des mitzvot sont liées à l'action. Vega, matluyot, vedibour, marshava, merci. Et même les mitzvot qui sont liés à la parole et à la pensée. Kegon, kemo, comme par exemple. Quels mitzvot sont liés à la parole et à la pensée? Hein? Alors, kemo, il donne un exemple. Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est lié à la parole ou à la pensée?
Les deux.
Hein? Attention, c'est un piège. L'étude de la Torah, c'est lié à la parole ou à la pensée? Hein? À la parole ou à la pensée?
L'étude, c'est la pensée.
C'est votre dernier mot?
La finalité.
Hein? La parole. Non, oubliez l'action, l'étude, les gens vont étudier. La Torah, c'est moi, Véchinan Tam Levanera, je dois étudier.
C'est la pensée.
D'accord?
C'est la pensée.
On dépend.
Les deux.
Torah écrite, Torah orale. La Torah écrite, le plus important, c'est de la dire. La Torah orale, le plus important, c'est de la comprendre. C'est pas la même chose. C'est pour ça, par exemple, le matin, avant d'avoir fait les brachot, avant d'avoir fait la birkat à Torah, on n'a pas le droit d'étudier.
Ouais.
Alors. C'est écrit que la Torah orale, l'interdiction, c'est si on lit et on comprend. Et si on comprend pas, il n'y a pas d'interdiction, parce que la Torah orale, elle est faite pour être comprise. Mais alors que la Torah écrite, c'est interdit, même si on comprend pas ce qu'on lit. C'est pour ça que quand le Shabbat, on lit, et le Chazan, il va très très vite ici, quand il lit la Torah. Les gens, mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils perdent leur temps ici. Pas du tout. La Torah écrite, le fait de l'entendre, c'est déjà une mitzvah. Ou de la dire, c'est-à-dire verbalement, sans même la comprendre. D'accord? Bon, alors je reviens où j'en étais. Alors.
Mais ça va, on s'est habitué maintenant.
Est-ce que vous connaissez encore d'autres... Comme quand on s'y fait à tout. Alors, est-ce que vous connaissez encore d'autres mitzvot qui sont liées à la parole ou à la pensée? À part les mitzvot qu'il donne ici. Donc il a donné l'exemple de l'étude de la Torah. Il a donné encore un autre exemple, c'est quoi?
Birkat Amazon.
Bon. C'est une mitzvah le Birkat Amazon. C'est une mitzvah qui est liée à la parole ou à la pensée? À la parole. Ou Kriyat Shema. Créature, ma parole ou pensée?
Parole.
Ou tfila? Parole ou pensée?
Pensée.
Les deux. C'est un piège aussi.
Les deux.
Tfila, oui.
Il y a des mots de
c'est pour ça que dans la tfila, qu'est-ce qu'il dit Maïmonide par rapport à la tfila? Par rapport à la tfila, il dit que si une personne sent qu'il n'arrive pas à prier et qu'il a besoin de plus de temps, il a besoin de plus de temps pour avoir la kavana, et ben il peut reporter cette tfila. C'est-à-dire, s'il a besoin de faire un shiur de chassidout avant la tfila, il doit faire un shiur de chassidout, il n'y a pas de problème. Même si à cause de ça, il va étudier 3 heures, et il va prier, il va dépasser l'osman. Il n'y a pas de problème. Parce que dans la tfila, il faut les deux. Il faut la parole et la pensée. Et si une personne sent qu'il n'aura que la parole sans la pensée, et qu'il peut rajouter quelque chose pour avoir la pensée, dans ce cas-là, il aura de le faire.
D'ailleurs, c'est une revendication, d'accord, de faire chassidout le matin à 6 heures ici avant de.
Donc, la tfila, c'est les deux. La tfila, c'est les deux. Comme Rabbi Chaim de Brisk dit sur la tfila, hein, sur ce commentaire, Rabbi Chaim de Brisk, il avait l'habitude de commenter beaucoup le Maïmonide. Il explique que selon la chita de Maïmonide, le concept de la tfila, hein, c'est que s'il n'y a pas de kavana dans la tfila, je parle surtout de la Amida, c'est pas qu'on a eu une tfila hein, sans kavana, mais on a eu quand même une tfila. Il dit que la tfila ne démarre même pas. Ça, il explique. Il explique selon la chita de Maïmonide. Il dit que c'est pas que, comme les autres mitzvot, que soit tu fais avec kavana, soit tu fais sans kavana, valeur ajoutée, ou sans soit on va leur ajouter. Non. Que selon Maïmonide, c'est quoi le concept de la tfila? La tfila, c'est le fait de le dire verbalement, mais qu'il faut que ce soit associé, au moins dans la Amida, avec une certaine kavana du cœur. Et même si c'est pas une kavana du sens de chaque mot, mais au moins une kavana générale, qu'on est en train, omed, l'ifne, melech, malcha, melachim, qu'on se tient devant un kadosh baruch hu, et qu'on est en train de parler à Dieu. Il faut au moins avoir cette kavana-là. Si on n'a pas cette kavana, on recommence la mida.
On ne peut pas s'accrocher au minyan.
D'accord. On peut pas
s'accrocher au minyan.
Non. On n'est pas quitte. C'est pas de la blague, ça. Hein.
Ouais.
On recommence
on parle,
la mida.
On parle de la première bracha.
Oublie même la première bracha. Si une personne ne connaît pas la tradition, etc., on lui demande d'avoir au moins une kavana. Au moins une kavana essentielle. C'est quoi la kavana essentielle? Kavana essentielle, c'est que je suis omed bifne melech macha melachim akadosh baruch hu, qu'on se tient devant akadosh baruch hu. Au moins pendant la mida. D'accord?
Dans toute la mida?
Je pense que c'est accessible. Je pense que cette kavana est accessible. Bon, écoutez, une personne se lève, et il était fatigué, il s'est levé tôt pour venir à la synagogue, il aurait pu rester dormir un peu plus, il se réveille, il est dans la mida. Alors le plus difficile, c'est qu'on lui demande, écoute, maintenant ne réfléchis pas à tes affaires, bien que les meilleures idées viennent pendant la mida, tu réfléchis pas à tes affaires, et maintenant tu penses que tu es en train de parler à Dieu, c'est tout. Après les détails, bon, bien sûr, après si on comprend la traduction de chaque mot, c'est encore mieux. Mais au moins ça, sinon on n'est pas qui. Sinon on recommence la mida. On recommence la mida, sinon c'est pas de la blague. D'accord?
On la recommence si on est certain de pouvoir faire mieux.
On peut faire mieux. Tu peux, même une personne qui
sait. Sinon, c'est Baraka le
Batala. Et même une personne qui connaît pas la traduction des mots. Il peut avoir une kavana générale qu'il est en train de parler à Dieu. Qu'il est en train de s'adresser à Dieu.
Oui, mais il ne peut recommencer que s'il est certain
de faire mieux. Tu avais dit, on ne le refait pas parce que de nos jours.
On n'est pas sûr de
refaire
mieux.
Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, on demande au moins une kavana. J'ai dit qu'aujourd'hui, au moins, on demande une kavana générale. D'accord? Kavana générale qu'on se tient devant un kadash pour. Je vais vous donner un exemple. C'est comme une personne qui est en train de plaider devant un roi. Il est en train de plaider devant un roi. Alors tu vois celui qui est en train de plaider et qui vit son texte. Il vit son texte, il est dedans, avec il fait un sourire à un endroit. Enfin je veux dire, il vit son texte. Bon, celui-là bien sûr qu'il ferait un certain impact sur le roi. T'as un autre, d'accord, qui vit, il comprend pas la traduction du texte. Mais bon, il sait qu'il est devant le roi, il dit voilà, il lit un texte qu'il a appris par cœur. Bon, c'est acceptable. Mais t'en as un autre, qui vient devant le roi, il répète un texte, mais il fait comme si que le roi n'est pas là. Il est en train de faire la fête, il pense à ses affaires. On dit, monsieur, où tu te crois? Fais pas la mida, c'est mieux. D'accord? C'est la même chose. Après, s'il fait, il fait des fautes dans sa mida, etc., c'est autre chose. Ça, c'est moins grave. C'est comme une personne qui est devant le roi, qui bégaye. Mais au moins, il se rappelle qu'il est devant le roi. Donc le roi, si c'est un bon roi, il va faire un effort, il va l'écouter, il va dire, bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Il va écouter un mot, un demi-mot, il va le comprendre avec son visage, etc. Mais si on oublie qu'on est devant le roi, explique Rabbi Chaim de Brisque, c'est pas qu'on a fait une mauvaise Amida, c'est qu'on n'a pas fait du tout l'Amida. Ça, je pense accessible. Ça, c'est faisable. Donc, rappelez-vous, on revient à notre sujet. Les 613 mitzvot sont liés principalement, on a dit, à l'action. Et même les mitzvot qui sont liés a priori à la parole et à la pensée, comme les exemples qu'on a cités, comme l'étude de la Torah, Birkat Hamazon, Kriyat Shema, Tfila, ou bien la mitzvah d'aimer Dieu, la mitzvah de craindre Dieu, etc. C'est des mitzvot qui sont pas liés forcément à l'action.
Oui, il a fait pareil, Birkat Hamazon, et Tfila.
C'est pas la même mitzvah du tout. C'est deux choses différentes. Birkat Hamazon, c'est l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu après avoir mangé.
C'est une obligation.
D'accord? Et la tfila, c'est l'obligation de demander à Akadosh Baruch Hu nos besoins quand on en a besoin.
L'expression est la même. L'expression...
Non, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est un remerciement, et l'autre, c'est une demande. C'est pas du tout la même chose.
Ça
n'a rien à voir. D'ailleurs, l'obligation de la tfila, c'est uniquement si on a besoin de quelque chose. Si une personne, tout va bien, Baruch Hashem, les affaires, la famille, tout va bien. Minatora, il n'a pas l'obligation de faire la mida. D'accord? Bien sûr, c'est-à-dire que Minatora, il n'a pas l'obligation. Le rabbi disait toujours qu'aujourd'hui, chaque juif a l'obligation de faire la mida Minatora, puisqu'aujourd'hui, on attend tous Mashiach, puisque Mashiach, c'est un besoin. Donc, étant donné que dans la mida, il y en a 6 brachot, au moins 6 brachot qui parlent de Mashiach, donc, on va dire que pour le Ham Israël, c'est un besoin, donc tout le Ham Israël fait une amida Minatora. C'est intéressant, hein, bon. D'accord? Alors. Ah, Kaimalan, explique ici, la Admor HaZaken, il dit... Bien que là, il y a des mitzvot qui sont pas liés à l'action, a priori, mais pourtant, à Kaimalan, on sait, rappelez-vous, on est dans la troisième phase aujourd'hui, troisième phase finale, la phase de l'action. Et même si on passe beaucoup de temps dans des mitzvot qui n'ont pas l'air d'être liés à l'action, comme voilà, maintenant on étudie. À Kaimalan, des hir ur lav kedibur damim. On sait très bien qu'il y a une halakha qui nous dit que la pensée n'est pas comme la parole, que réfléchir n'est pas comme parler. Ve no yotse yedechovato beiru vechavana levad. Ah, Chiyotsi Bisfatave, qu'on n'est pas quitte, sans qu'on n'a pas exprimé verbalement. Et que même la Torah orale, à un certain moment, il faut exprimer verbalement. Ah, bien sûr qu'il y a une grande partie dans laquelle on est en train d'essayer de réfléchir et de comprendre ce qu'on a exprimé verbalement. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une yeshiva, c'est pas comme si, bon, je le répète souvent, d'accord? C'est pas comme si vous rentrez dans une bibliothèque dans laquelle tout est calme. Ils sont en train de crier. C'est-à-dire, ils sont en train d'exprimer ça verbalement. Pourquoi on doit exprimer verbalement? Parce que c'est une action.
Et voilà.
Pourtant, tu vas me poser la question, tu vas me dire, quelle différence entre la pensée et la parole, c'est la même chose. La pensée, c'est avec des mots. D'accord, voilà. La pensée, c'est avec des mots. La parole, c'est aussi avec des mots. C'est quoi la différence entre la pensée et la parole ? C'est que quand on parle, on va forcément matérialiser ça avec notre corps. On va parler, on va habiller. Non ? Non, c'est déjà dans la pensée, ça. On peut réfléchir avec des mots. Je peux réfléchir à un concept en français dans des mots.
Mais la pensée, elle descend quand on a mis...
Non,
quand
c'est pas,
mis
pas forcément. Exprimer,
non. Imagine-toi que je réfléchis aux mots de la tefila. Je réfléchis dans ma tête, Baruch, Ata, Hachem, je m'imagine les mots dans ma tête. Quelle différence si je les pense ou je les dis ? A priori, il n'y a pas. La seule différence qu'il y a, c'est quoi ? Écoute bien. Ve kaimalan de akimat fatav ave maase. Que on tient, il y a une halakha qui dit que akimat fatav ave maase, le fait de bouger ses lèvres, c'est considéré comme une action. Par exemple.
Pourquoi... La vida, justement.
Ah, écoutez bien, pourquoi la Gemara dit ça ? La Gemara, Baba Metzia, elle dit, c'est une machloket, d'accord ? Et nous, on suit la vie de Rabbi Yochanan. Là-bas, la Gemara, elle amène l'exemple. Elle dit, imaginez-vous, quelqu'un qui dit, je fais un éder, je fais le vœu, de ne plus jamais faire d'action pour telle personne. Il est énervé avec lui, il dit, je fais le néder de plus jamais rien faire pour cette personne-là. Elle fait le néder. D'accord ? Et qu'après, un jour, cette personne-là a besoin de quelque chose, et il va aller parler à une personne pour cette personne-là. Il va parler.
Et par sa d'accord parole,
ça il va pas penser, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas ? C'est une marloquette. Hein. Mm-hmm. La Gemara, elle est comme Rabbi Yochanan.
Il
dit que Akimat Fatav avait maassé. Que le fait d'avoir bougé ses lèvres, c'est considéré comme une action. Et donc, il doit amener un sacrifice pour ça. Pour le fait d'avoir enfreint son vœu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait de bouger ses lèvres, c'est une action. Donc, si on se pose la question, quelle différence si je réfléchis dans ma tête Baruch Ata Hashem, ou si je dis Baruch Ata Hashem, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose ? Parce que quand je dis Baruch Ata Hashem, je vais exprimer ça verbalement, en d'autres termes, je vais exprimer ça dans le monde de l'action. Ça veut dire que si on accepte ce principe-là, ça veut dire que toutes les mitzvot, sans exception, sont forcément liées au monde de l'action. D'accord ? Donc sont forcément liées au monde de la construction personnelle. Toutes les mitzvot. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'avait dit la Gemara Brachot ? Mara Brachot d'Afret avait dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, ou troisième phase, où c'est qu'on peut retrouver la Shrina, on peut retrouver la Shrina uniquement dans, rappelez-vous,
quatre
amot de Halakha. Pourquoi la Halakha ? Parce que la Halakha, c'est l'expression matérielle. Ça, c'est un concept, c'est une base du Tania, ça. Vetariach mitzvot à Torah im sheva mitzvot de Rabbanan. Donc si on compte les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot qui ont été rajoutés par les Chachamim, hein, donc c'est quoi les 7 mitzvot que t'as ajouté par les Chachamim ? Est-ce que vous les connaissez ? Ah, il y a un signe pour s'en rappeler. D'accord ? Un signe pour s'en rappeler, c'est les initiales de Na Besimcha. Na Besimcha, ça veut dire bouger dans la joie. Donc on va Na Besimcha. Nun, Aïn, Bet, Shin, Mem, Chet, He. Donc on va commencer. Nun, c'est quoi ? Netilat Yadayim. Aïn. Eruv. Le Eruv. D'accord ? Bête. Une chose qu'on fait tous les jours avant de manger, avant de... etc. Brachot. D'accord ? Shin.
Shema ?
Non. Shabbat. Ouais, Chachamim ont instauré le Shabbat.
Non.
Qu'est-ce qu'ils ont instauré Chachamim le Shabbat ? Il y a des halakhot particulières que Chachamim ont instauré le Shabbat, par exemple, ouais, comme le fait que... Plus. Non. Comme le fait que Shabbat, on n'a pas le droit de parler ce qu'on parle dans la semaine. C'est ajouté par les Chachamim. C'est écrit dans la Torah. Normalement, halakhiquement parlant, si tu suis la Torah, Shabbat, t'as le droit de parler à faire. T'as même le droit de donner des ordres, d'accord ? De donner des ordres à quelqu'un, à un goy qui va faire une affaire. Là, aucun problème. Chachamim sont venus pour préserver le caractère sacré du Shabbat. Ils ont mis toutes les restrictions qu'on a aujourd'hui, de pas parler d'affaires, de pas donner des ordres d'affaires, de pas avoir, etc. Toutes les restrictions. Shabbat. Quel ordre on a encore ? Même. Donc on a dit Na Besimcha. D'accord ? Megillah, très bien. Chet. Si on a la Megillah, donc on a Hanouka. D'accord ? Et He.
Purim.
He.
Rapurim.
Non. He. Halel. D'accord ?
Purim.
Purim, c'est pas inclus dans les 7 mitzvot.
Mais pourquoi ?
C'est où alors ?
C'est une bonne question.
Et le Loulav.
D'accord ? C'est une bonne question. Pourquoi on n'a pas instauré Purim ? Alors c'est une grande marque loquette ça, parce que nous on arrive au nombre de 7 des mitzvot de Chachamim. Il y en a qui disent que Bémet, la mitzvah la mitzvah de Pourim n'a pas la même valeur que la mitzvah que la mitzvah de Hanouka. Parce que la mitzvah de Pourim a été instaurée par qui? Par la reine Esther. En souvenir d'un miracle qui s'est passé. Donc ça rentre dans le cadre d'un hallel, d'un remerciement, d'une louange à Kadosh Baruch Hu. Et toute une longue explication pour dire pourquoi Pourim n'est pas dedans. C'est pas seulement ça, il y a encore d'autres mitzvot. Oui. D'accord? Oui, mais il n'y a pas les autres mitzvot de Pourim, le ouais. Michté, etc. Alors, parce que les autres, pareil, le Michté de Pourim, ça rentre dans le cadre du hallel. Dans le cadre du remerciement à Kadosh Baruch Hu. Donc on a Na.
C'est Megillah, Michté,
Non, c'est Megillah.
On peut dire que c'est le même,
il n'y a pas. Les autres mitzvot, il n'y a pas.
Netilat Yadayim.
Alors, Na, Besimra, Nun. Netilat Yadayim, Aïn. Eruv, Bet, Brachot, Shin, Shabbat, donc les halachot particulières sont rejetées sur Shabbat, même
Megillah,
Chet, Chanouka, He, Halel. Donc 613 plus 7, ça fait combien?
620.
620, c'est la valeur numérique de
Keter,
la couronne. D'accord? La couronne. Quel rapport avec la couronne ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire avec la couronne? Écoutez bien ce qu'il dit à Admor HaZaken ici. Shehu Ratson Elyon Baruch Hu. Keter,
c'est la volonté.
C'est le plus haut niveau. On reprend le tableau Excel. Keter, c'est quoi? C'est le plus haut niveau qui peut exister. C'est la couronne, ça veut dire qu'il se trouve encore plus haut que Atzilut. C'est celui qui couronne Atzilut. Et pourtant, nous on l'a fait à quel niveau? Il est tout en haut, c'est le plus haut. Il est encore plus haut que Atzilut. D'accord? Non, je ne l'ai pas montré. Keter, je ne l'ai même pas mis. Il est tellement haut qu'il n'est même pas dans le tableau. Et pourtant, comment nous on accomplit ces mitzvot-là? Le plus bas du tableau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le plus bas, on retrouve le plus haut. Ce qui est encore plus haut, c'est encore plus haut que la manière d'étudier la Torah au niveau de Hatzilut. Parce que rappelez-vous, 613 plus 7 est égal à 620. 620, c'est Keter. Keter, c'est quoi? Shehu, Ratson, Elyon, Baruch Hu. Keter, ça représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi quand on dit la volonté? Ça veut dire Amelou Bash Berochmato Yitbarech, la volonté brute, telle qu'elle est habillée. Berochmato Yitbarech, dans la volonté, dans la sagesse initiale d'Akadosh Baruch Hu. Amiyuchadot Berochmato Yitbarech, Betachrit Ayichud. Et là on dit Keter. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle est unie avec Akadosh Baruch Hu, dans l'union la plus forte qui peut exister.
Pourquoi tu dis Keter? C'est le Keter de Asiya? D'où on sait?
C'est parce que c'est ce qu'il dit ici. Vachem, Bechorma Yassad Aret. Il a même un verset. Il y a un verset dans Michelet qui dit que Dieu a créé, a fondé la terre avec Chorma. C'est quoi Dieu a fondé la terre avec la Chorma? C'est quoi cette histoire? Avec ça, il explique. Il dit, c'est quoi, ça veut dire quoi quand on dit que Hachem Bechorma Yassad Aret? Il dit, Hi Torah Shebe Alpe de Nafka Bechorma Ila. Là, on parle de la Torah Shebe Alpe, donc la Torah orale, de Nafka Bechorma Ila, que Moshe Katou Bezoar de Abba Yassad Barta. Alors, qu'est-ce qu'il explique l'Admor HaZaken? Il y a un texte un peu crypté dans le Zohar qui dit que Abba Yassad Barta, ça veut dire quoi? Il dit que le père a donné naissance à la fille. Qu'est-ce que c'est histoire? Le père a donné naissance à la fille. Quel rapport entre le père et la fille? Là-bas, le Zohar, il dit, de la même manière que Begashmiut matériellement, on voit que le père est plus lié à la fille que la mère. Est-ce qu'on est d'accord?
Oui.
La mère, en général, est liée au garçon. Est plus lié, d'accord. D'accord. On le sent. On dit que le père est plus lié aux filles et la mère est plus liée aux garçons. D'accord. Attendez. C'est pour ça que quand on parle le Zohar là-bas, il dit que la simcha la plus grande, je l'ai dit une fois, la simcha la plus grande qu'une personne peut avoir, c'est lorsqu'il marie
sa fille.
D'accord. Donc le père avec sa fille. Plus que ça, Parashat Hazriya. Qu'est-ce qu'on dit? Isha qui t'aiderait avec Eldazahar, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Il dit que si c'est la femme qui a envoyé en premier la semence, qu'est-ce qui va sortir? Un garçon. Et si c'est le mari qui a envoyé en premier, qu'est-ce qui va sortir?
Une fille.
Pourquoi? C'est pas logique. Normalement, le garçon, le mâle de faire des mâles, le femelle de faire des femelles. Qu'est-ce que cette histoire? En faisant là-bas, il explique la chose suivante. Il dit que c'est un principe qu'Akadosh Baruch Hu a fait, que le mâle, d'accord, crée la femelle. Et la femelle crée le mâle. C'est extraordinaire. Alors, quel rapport avec notre sujet? C'est quoi Abba? Explique le Zohar. Abba, nous dit le Zohar, c'est la Chorma. C'est le premier niveau. Parce que Abba, c'est quoi? Abba, on a expliqué, Abba, c'est le Père. Donc le Père, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est celui qui crée, c'est celui qui innove, c'est celui qui donne. De quel Chorma on parle? Explique le Zohar. Chorma d'Atilut, la Chorma la plus forte qui peut exister. Ce Abba-là, avec qui il est lié? Il est lié avec la fille. C'est quoi la fille? La fille, c'est celui qui reçoit. Et c'est qui le plus grand réceptacle qu'il peut avoir dans l'humanité? C'est celui-là. Parce que celui-là, il est en bas de la chaîne. Donc s'il est en bas de la chaîne, forcément, il reçoit de tous pour arriver ici. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Abba, Yassad, Barta. c'est le Abba, c'est la Chorma, qui a fondé Brata, la fille. Et avec ça, le Zohar, il veut expliquer comment ça se fait que la plus grande Chorma d'Akadosh Baruch Hu, même si on croit que la plus grande Chorma d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans les Olamot, dans les mondes suprêmes, etc., le Zohar, il dit non. Abba, Yassad, Brata. Tu veux retrouver Akadosh Baruch Hu, l'endroit le plus fort où tu vas le retrouver, c'est en bas. Puisque, rappelle-toi, le mâle donne naissance à une femelle, et la plus grande femelle qu'on peut connaître, c'est nous. Parce que nous, on est les plus grands récepteurs. Qu'est-ce qu'on produit? Nous, on produit pas grand-chose. On est là en train de recevoir et d'essayer de comprendre ce qu'on reçoit, c'est tout. On produit rien du tout, on n'est pas en haut. En haut, ils produisent, nous, on reçoit. Nous, on est la fille. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Abba, Yassad, Brata. Et donc ça, c'est la troisième étape. Je m'arrête ici. C'est la troisième phase, la phase finale de la construction du Ham Israël, dans laquelle c'est plus une shrina extraordinaire, comme à l'époque du premier Beth Amikdash. C'est encore moins une shrina qui concerne tout le Ham Israël, mais qui est moins forte. Là, on est dans la construction personnelle. Et plus on avancera dans la galoute, et plus Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner des outils pour la construction personnelle. Ça, c'est une constante. On le voit clairement. Quand on analyse ce qui s'est passé les 2000 dernières années, on voit que plus on avance dans l'exil, et plus Akadosh Baruch Hu nous donne des outils pour la construction personnelle, pour la personne lambda du Ham Israël, des choses qu'on n'a pas eues. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un il y a 2000 ans qui voulait se construire, il ne pouvait pas se construire comme on se construit aujourd'hui. Il n'avait pas tous ces outils. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Puisque plus on avance dans la galoute, et plus Akadosh Baruch Hu veut que l'Ham Israël se construise, puisque rappelez-vous, la Chorma aujourd'hui, Abba Yassad Barata, Akadosh Baruch Hu nous dit, aujourd'hui, si tu veux avancer, En la Kadosh Baruch Hu Bolamo et la Dalet Amot Shel Halacha. Akadosh Baruch Hu n'a dans ce monde uniquement les 4 Amot de Halacha, ça veut dire dans la construction personnelle. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on finira le 53e chapitre du Tanya. Et on expliquera comment avec ça on va comprendre toute la ligne conductrice du Tanya. Comment le Tanya n'arrête pas de nous dire le travail personnel, le Benoni, que c'est la raison pour laquelle le monde a été créé, etc. Maintenant, on va tout comprendre comment Dafka dans l'exil, quand on se trouve dans l'exil, c'est là que la construction personnelle est obligatoire. Et si on n'a pas la construction personnelle, on n'a rien compris, on n'a pas la Shrina. C'est de la même manière qu'à l'époque, pour avoir la Shrina, on allait au Beth Amikdash, 3 fois par an. Aujourd'hui, comment on a la Shrina? C'est dans la construction personnelle. Et quand on a la construction personnelle, on expliquera la semaine prochaine, on peut avoir la Shrina encore plus que ce qu'ils avaient à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que la Shrina était plus forte, mais c'était collectif, c'était pas individuel. Aujourd'hui, on va expliquer c'est individuel, mais ça, Bezrat Hashem, on expliquera la semaine prochaine. Une question, Yves ?
Non, je disais que oui, mais ce que tu dis là, c'est pas propre au projet, c'est-à-dire que la construction personnelle, c'est quelque chose qui est propre au développement même de l'humanité.
Oui. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est possible que dans le monde de l'époque, on n'accordait pas de l'importance à la construction de l'humanité. Les grands penseurs, même chez eux,
voilà,
les comme Freud et tout ça, etc. Il n'y avait pas avant.
On peut dire que par le développement aussi de tout, des techniques.
C'est vrai.
Il y a un développement personnel de chacun qui peut être plus important.
Ça veut dire que, a priori, quand on retrace l'histoire, même chez les goyim, c'est vrai, c'est un bon point. On voit qu'à l'époque, la construction, toutes les sciences qu'ils avaient, les goyim, n'étaient pas pour les grandes masses. On avait des grands philosophes, etc. Mais c'était pas pour les grandes masses. Il y avait des gens qui étaient particuliers, qui étudiaient, etc. Mais c'était pas comme aujourd'hui qu'à l'école, on doit étudier. Qu'aujourd'hui, les grandes masses étudient ça. A priori, c'est un chidouche. Une nouveauté. Et on voit comment Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer à Mashiach. On voit comment, quand on analyse, essaye de réfléchir, d'analyser ce qui s'est passé les 2000 dernières années, on voit que plus on avance, et plus Akadosh Baruch Hu est en train de nous encourager à la construction personnelle. Regardez, prenez la différence entre nos grands-parents et nous. Combien de temps nos grands-parents passaient à la construction personnelle? Et pas étudié. D'accord? Ils avaient travaillé, bon, ils avaient la halakha, c'est sûr qu'ils avaient de la morale, etc., mais c'est rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Rien à voir avec le temps qu'on passe aujourd'hui pour se construire. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à essayer de se construire ce qu'on appelle la pensée juive.
Oui, parce qu'au côté de ça, il y a beaucoup de choses qui
Bien sûr. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on passe énormément de temps à la construction personnelle. Et qu'on perçoit des choses qu'ils ne percevaient pas. Sauf que, comme tu as dit, avant, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Avant, ils étaient devant le rabbi. Ils n'avaient pas besoin de tout ça. Mais nous, aujourd'hui, qu'on s'est éloigné. Et plus on avance, et plus on s'éloigne, et plus on se construit. C'est une constante.
Vous voyez? Pour mettre en pratique tout ce qu'on étudie dans le Tanya. Juste après le cours de Tania, on fait une heure de Gemara.
Qui a dit que ça peut le mettre en pratique?
Là, on philosophe sur l'étude, mais...
Cours de Halakha, tu veux dire?
C'est vrai qu'après le Tania, on a envie de mettre en pratique et d'étudier le...
Un cours de Halakha, tu veux dire?
Halakha ou Gemara?
C'est pas facile après d'avoir la tête.
Le Tania, ce qui explique, le Tania s'adresse à des gens qui sont religieux, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà la Halakha, et que... On leur demande pas de faire la Halakha, parce que ça, ils le font déjà, c'est évident. On leur demande de vivre la Halakha. C'est pour ça que c'est ça la pensée juive. On leur demande de vivre, de se construire, de vivre la halakha. Faire la halakha, c'est évident qu'on fait déjà. Vous avez remarqué dans le Tania, il parle très peu de d'Averot, parce que c'est évident qu'on parle, on s'adresse à un juif religieux. C'est évident qu'il fait les mitzvot. Mais on essaye de lui donner de la vie dans les mitzvot, c'est-à-dire de, qu'il vive sa halakha. Et c'est justement, c'est ça le concept du Benoni. Comment il faut repousser à chaque fois ses mauvaises pensées, etc. On parle de choses très très fines. On dit même t'as une mauvaise pensée qui vient, faut pas laisser une fraction de seconde. Faut... Bon, faites rattacher à la semaine prochaine, on fera un résumé. Avec ça, on finira le 53e chapitre. Et... Alors attention, on a sauté un chapitre. Il y a un chapitre qu'on n'a pas fait. Le chapitre 34, la Lamed Dalet. Donc on devra le faire, hein, sinon c'est pas Shalem, c'est pas complet. Et puis Bezrat Hashem, après on aura un long résumé sur le Tania, dans lequel on va montrer... Parce que c'était après les vacances, on a commencé à 35, je ne me suis pas rendu compte. Et c'est seulement... Non, seulement après je me suis rendu compte qu'on a sauté. C'est bon. Et je pense qu'il sera lié à la fin aussi. Ben, je garde pratique. Le 34 est lié à la fin. Moi, je n'ai pas fait exprès, mais c'est lié. Voilà, c'est pratique.
Et on peut dire que la boucle est bouclée.
La boucle
est bouclée.
Bien sûr.
En partant du commencement qu'on a...
Ce que le Zohar a dit.
La Torah est descendue.
Oui.
Et on arrive à la fin où...
C'est ce que le Zohar a dit. Il a dit, Abba, Yassa, Torata. D'accord. Qu'est-ce qu'a dit le Zohar? Le Zohar, rappelez-vous, le Zohar a dit, Abba Yassad Brata, ça veut dire, c'est le père qui va créer la fille. Et plus on est récepteur, et plus ça veut dire que c'est descendu et que c'est ça qui est capable de voir.
C'est ça, mais...
On est neuf.